compris encore. Oh oui, notre Dieu, quel privilège tu nous donnes d'être ici rassemblés ce matin. Et quel privilège tu nous donnes de pouvoir te rendre un culte. Merci d'avoir pu répondre à ta sainte convocation. Et merci de ce que maintenant tu veux aussi parler à nos cœurs. Tu veux nous enseigner, tu veux nourrir nos âmes par ta parole. Et nous demandons alors que tu nous secours dans notre faiblesse, que tu nous accordes ta grâce pour que cette parole puisse pénétrer en nous et réellement nous parler. Que nous ne soyons pas, en sortant d'ici tout à l'heure, des auditeurs oublieux, mais que tu nous permettes de garder ces choses dans nos cœurs, que tu les imprimes, Seigneur, toi-même, dans nos cœurs, pour que nous puissions vivre d'une manière qui soit plus conforme à ta volonté. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Nous continuons notre périple dans l'Épître aux Hébreux et nous allons lire le 6e chapitre de cet épître. Hébreux, le chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, est près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. La dernière fois, nous en étions restés au verset 9. Et si nous avons lu tout le chapitre, c'est pour que nous puissions comprendre, et ça d'autant plus qu'on a beaucoup de visites, comprendre le contexte immédiat du passage sur lequel nous nous arrêtons aujourd'hui. Mais pour commencer, redisons quelques mots du contexte général de l'épître. D'abord, c'est que l'auteur, qui nous est inconnu, l'auteur écrit sa lettre à des chrétiens d'origine juive, d'où le titre qu'on a donné à ce livre, Épître aux Hébreux. Ces 13 chapitres sont consacrés à fortifier et à affermir ces chrétiens d'origine juive. Et il le fait sous deux formes, en les avertissant et en les encourageant. Et nous avons déjà vu qu'aussi bien les avertissements que les encouragements sont pour la plupart tirés de passages de l'Ancien Testament. La Bible s'éclaire et s'explique par elle-même. Nous allons d'ailleurs particulièrement nous en rendre compte ce matin avec les nombreux passages qui seront cités. Mais pour les Juifs de l'époque, c'était important que l'auteur use de ce procédé. Oui, parce que ce sont les mêmes textes que tous les Juifs connaissent. Ceux qui restent, mais que ceux qui restent attachés à la loi de Moïse, aux prescriptions cérémonielles, à la circoncision, au sabbat, aux fêtes, ces textes, les Juifs de la religion juive ne les comprennent tout simplement pas. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient les conduire au Christ. Et on peut dire pour aujourd'hui que tous les évangéliques qui retournent aux prescriptions judaïques, aux fêtes, au sabbat, ces textes, ils ne les comprennent pas non plus. C'est comme si ce voile qui avait été retiré de devant leurs yeux pour qu'ils connaissent le Christ, ils le remettaient. Ils retournent volontairement dans les ténèbres, dont pourtant il semblait que la lumière du Christ les avait délivrés. On se rend bien compte, tous les chrétiens de toutes les époques ont eu besoin d'être fortifiés et affermis. Mais est-ce que vous vous rappelez le problème spécifique auquel ces chrétiens d'origine juive étaient confrontés? Eh bien justement, ils sont persécutés par les juifs restés dans la religion juive. Et alors, fortement influencés par eux, par une pression constante qu'ils exerçaient sur eux, parce que les Juifs essayaient de convaincre les chrétiens hébreux à judaïser, eh bien, à cause de ça, plusieurs étaient déjà retournés en arrière, avaient quitté l'Église, comme le laisse entendre Hébreux 10, 25. Pendant que d'autres étaient en passe de se laisser convaincre de tourner le dos, eux aussi, à Jésus-Christ. Parce que abandonner son assemblée, comme le dit ce dixième chapitre, ce n'est pas quitter une église pour aller dans une autre, un rassemblement de chrétiens pour un autre. C'est en fait abandonner son union à Jésus-Christ pour s'attacher à nouveau à la loi, au légalisme. Alors ces Hébreux qui hésitaient ou qui recommençaient sans doute à fréquenter des judaïsants en allant probablement de temps en temps à la synagogue pour y entendre, pour y réentendre les enseignements juifs, eux donc pensaient sans doute, ou plutôt ne pensaient sans doute pas qu'ils étaient en train de tourner le dos au Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui nous permet de le dire avec certitude? C'est Galates 5. Écoutez ce qu'affirme l'apôtre Paul. Galates 5, versets 2 à 4. « Voici, moi, Paul, Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. On ne peut pas être plus clair. Quand on a connu la grâce et qu'on retourne aux prescriptions légales de la loi pour être sauvé, ou à un culte, à des rites qui n'ont pas été prescrits par le Christ ou ses apôtres, quand on entraîne ceux qui fréquentent l'Église à accomplir certains rituels, certaines pratiques non bibliques, en prétendant qu'ils sont obligatoires pour être sauvés, quand dehors d'eux, le salut est impossible, eh bien, à partir de ce moment-là, on perd le Christ. Et comme le dit la fin du verset 6 du chapitre 6, tous ceux qui tombent dans ce piège, à moins qu'ils ne se repentent, tous ceux-là qui persévèrent dans cette désobéissance à la parole de Dieu, qui dénaturent, qui pervertissent de cette manière l'Évangile, crucifient pour leur part le Fils de Dieu et le tournent en ridicule. Oui, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Tellement que l'auteur de l'Épître a jugé nécessaire d'avertir ses frères hébreux. Et nous avons déjà vu que ces avertissements, ces mises en garde qui ponctuent cette lettre, sont souvent sévères, ou tout au moins solennelles. Mais chaque fois, parallèlement, ils sont accompagnés de riches encouragements. La dernière fois, justement, avec les versets 4 à 8 du 6e chapitre, on était tombé sur l'un de ces avertissements. Et pas le moindre, comme nous l'avions vu, et comme on l'a lu tout à l'heure, parce qu'ici, il s'agit ni plus ni moins, soit du salut éternel, soit de la perdition éternelle. Nous voulons nous rappeler de quoi il s'agissait, parce que les termes employés dans ces quelques versets pouvait nous laisser penser que le véritable chrétien, sauvé par la grâce de Dieu, purifié par le sang du Christ, pouvait perdre son salut. Mais est-ce bien le cas? Le chrétien peut-il perdre son salut? Il y a beaucoup d'évangéliques qui le pensent. Mais nous avions vu, d'une part, que l'enseignement de toute la Bible, et en particulier l'enseignement du Christ et des apôtres, ne nous autorise pas à imaginer qu'une telle chose soit possible. Non, c'est impossible. Je vous renvoie ici, parce qu'on a vu d'autres la dernière fois, mais je vous renvoie ici à un seul texte, mais tellement clair, celui de Romains 8, les versets 28 à 30. Et d'autre part, la compréhension d'un texte biblique doit toujours être subordonnée au contexte dans lequel il se trouve dans la Bible. Et donc, ce passage des versets 4 à 8 se situe dans un contexte où l'auteur ne parle pas spécifiquement du salut en Jésus-Christ et de ce qu'il faut croire pour être sauvé. Il est plutôt en train de nous faire la démonstration de la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur tout le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire sur tout le culte qui était rendu à Dieu sous l'ancienne alliance, hein, ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et vous le savez, ce culte était principalement caractérisé par une multiplicité d'offrandes et de sacrifices sanglants. On tuait des animaux, des sacrifices qu'il fallait continuellement renouveler. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice unique sur la croix, son sacerdoce, c'est-à-dire ce qu'il a accompli pour notre salut une fois pour toutes, de manière définitive et parfaite, son sacerdoce surpasse à un tel point le culte de l'Ancienne Alliance qu'il est nécessaire et indispensable, si on veut être sauvé, Si on veut connaître l'amour de Dieu, indispensable de s'en détourner. Se détourner résolument du culte de l'ancienne alliance pour s'attacher fermement aux perfections du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen de notre salut. C'est-à-dire que non seulement personne ne peut lui être ajouté, comme si Jésus avait besoin d'un collaborateur pour nous sauver, ou d'une collaboratrice, fût-elle sa mère. Non, rien de ça. Mais en plus, aucune de nos œuvres, même parmi les meilleures, ne peuvent participer à notre salut. Donc, non seulement ça, le Seigneur Jésus est tout suffisant, mais ajouter quelqu'un ou quelque chose au Christ, c'est le perdre entièrement. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous voyez, dans le contexte de notre épître, c'est bien ça que ce passage des versets 4 à 8 laisse entendre. Et puis dans le contexte plus précis du cinquième chapitre, l'auteur faisait remarquer au destinataire de sa lettre, peut-être qu'il vous le fait remarquer à vous ce matin, que depuis tant d'années que vous êtes chrétien, vous devriez être des hommes faits, c'est-à-dire des femmes. C'est-à-dire qu'après plusieurs années de vie chrétienne, nous devrions avoir déjà atteint une certaine maturité spirituelle. L'auteur avait commencé à parler du Seigneur Jésus en tant que sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et il va développer ce thème dans le septième chapitre, non sans avoir précisé que la compréhension de ces choses devrait être acquise à tout chrétien mûr dans la foi. À tout chrétien qui n'en est pas resté au lait maternel, mais qui est capable de prendre une nourriture solide. Une nourriture qui est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal qui nous permet de résister aux séductions du diable et aux aspirations coupables de la chair. C'est notre capacité à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal qui, comme pour ces chrétiens juifs de l'époque, nous permettra de ne pas nous laisser séduire par des pratiques cultuelles non bibliques ou par un retour à des pratiques judaïques qu'on mêlerait à la simplicité de l'Évangile. Dans un cas comme dans l'autre, faire dépendre notre salut de telles pratiques s'apparente à un rejet de celui qui peut nous sauver, on l'a dit. Et si on persévère dans ces choses, l'auteur de notre épître n'y va pas de main morte, puisqu'il parle de nouvelles crucifixion du Seigneur. Il y a un pardon possible au cas où la personne se repente et revienne à la pureté de l'Évangile. Mais si elle s'entête, le texte le dit bien, c'est comme une terre qui avait été pourtant abreuvée, mais qui n'a finalement produit que des épines et des chardons. Elle est donc réprouvée, on est prêt à y mettre le feu. Quel avertissement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'avertissement, il y a l'encouragement. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Si nous regardons la suite du texte, les versets 9 à 12, si nous voyons que l'avertissement que l'auteur vient de donner ne signifie pas que ces chrétiens d'origine juive soient tombés déjà si bas. Non. En fait, c'était une mise en garde. Comme s'il disait « Attention, ne vous laissez pas séduire, ne tombez pas dans le piège de la facilité, du confort ou encore le piège de la religiosité, mais tenez ferme ce que vous avez. Le Christ est votre sauveur, il est votre tout, ne lâchez pas, ne le perdez pas, persévérez sur le même chemin » que vous avez emprunté dès le début. où l'auteur se montre très encourageant, c'est quand il leur dit qu'en ce qui les concerne, il attend des choses meilleures et favorables au salut. Il ne les avertit pas seulement de ne pas revenir en arrière à la religion juive qui était autrefois la leur, mais qui n'a plus sa raison d'être. Il les encourage encore à aller de l'avant, à persévérer dans l'obéissance de la foi, dans la simplicité de la foi. Le Seigneur Jésus lui-même, un jour, avait mis en garde ceux qui étaient disposés à le suivre, mais qui en même temps étaient encore tellement attachés aux affaires du monde. Et il avait dit ceci: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est dans Luc 9, 62. Chacun, nous pouvons avoir des attachements, des choses que nous avons laissées en arrière, dont nous nous sommes déchargés pour pouvoir suivre le Seigneur. Il a fallu faire des choix qui ont parfois pu être difficiles. Par exemple, tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont été obligés de quitter l'église à laquelle ils appartenaient ou qu'ils fréquentaient, parce que cette église-là se compromettait avec l'esprit du monde, ou que ses dogmes prenaient trop de distance avec ce que la Bible enseigne. Et il a donc fallu choisir. Choisir entre la vérité et le mensonge, entre la parole de Dieu et la parole des hommes, choisir entre plaire à Dieu ou plaire aux hommes. Et on sait bien que des décisions comme celle-ci sont difficiles à prendre, parce qu'on va quitter une zone de confort et d'habitude pour entrer dans quelque chose d'inconnu et surtout quelque chose où nous risquons d'être ostracisés, mis de côté et peut-être persécutés, comme l'étaient ces chrétiens d'origine juive auxquels cette lettre est adressée. Comment, dans ces conditions, ne pas regarder en arrière? Comment ne pas se demander si on a bien fait de partir, de quitter cette église qui finalement n'était peut-être pas si mal? Non, elle n'était pas parfaite, mais celle que j'ai rejointe non plus. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire traiter de sectaire, de fondamentaliste ou d'intégriste, de passer pour des gens qui se croient supérieurs ou qui ont tout compris, qui sont sauvés, eux, à l'exclusion de tous les autres? Nous savons bien que ce n'est pas vrai, que nous ne pensons pas du tout comme ça. Mais ceux qu'on a quittés, oui, souvent ils le pensent. Alors, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Les chrétiens juifs de notre épître se posaient peut-être ce genre de questions. Des chrétiens de notre temps se la posent. Mais il y a d'autres questions que certains chrétiens se posent aujourd'hui. Est-ce que j'ai eu raison de refuser l'avancement qu'on me proposait et qui aurait bien allongé mon salaire? Ouais, près de 1000 francs par mois. Pas mal. Oui, est-ce que j'ai eu raison de refuser ce poste au motif que mes nouvelles responsabilités m'auraient obligé à réduire sensiblement mes moments d'études personnelles de la Bible et les temps de qualité passés dans la communion avec le Seigneur? Ou bien encore, est-ce que j'ai vraiment eu raison de me séparer de ce groupe d'amis avec lesquels on passait chaque semaine de si bons moments à jouer aux cartes au bistrot du coin? C'est un exemple vécu. Ou ce sport que j'aimais bien, qui me faisait du bien, était-ce bien la peine que je l'abandonne sous prétexte que ça me prenait trop de temps, que j'y étais trop attaché, ou bien encore que ça me coûtait un peu cher? C'est un autre exemple vécu. Vous voyez, on aurait des tas de motifs à regarder en arrière, à regretter le passé, à se dire que oui, c'était bien quand à l'époque j'avais pris cette décision. Mais maintenant, le temps a passé. Je pense différemment. En clair, est-ce que je ne devrais pas tout simplement avouer que je n'ai plus le même intérêt, plus la même motivation à suivre le Seigneur? En fait, je n'ose peut-être pas me l'avouer à moi-même. Je me suis tout simplement refroidi. Oui, avec le temps, si on n'y prend pas garde, si l'Église n'y prend pas garde, pas seulement le pasteur, mais aussi les frères et sœurs, la foi s'émousse, se rabougrit. Et le premier amour que nous avions pour le Seigneur Jésus et pour sa parole précieuse, que nous avions pour son Église, pour nos frères et sœurs, ce premier amour, sans que nous nous en apercevions, nous l'avons abandonné. Et la pratique religieuse, dont tout ce qu'elle a de plus sec et de plus mécanique, a pris la place d'une vraie consécration à Dieu, d'une vraie piété. Extérieurement, il peut sembler que tout se passe bien dans l'Église, que tout est correct, que le mal est même jusqu'à un certain point dénoncé. Mais on se rappelle de la parole du Seigneur Jésus à l'ange de l'Église d'Éphèse. Tiens, encore Éphèse. Apocalypse 2, versets 2 à 4. « Je connais tes œuvres, dit le Seigneur, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais non, dans l'Église des Hébreux, on n'en est pas là, heureusement. Mais la pression exercée par les Juifs, ceux qui pratiquent la religion juive, est forte. Et il s'agit donc d'encourager ses frères hébreux à tenir bon, à ne pas se laisser ébranler, mais au contraire, à persévérer en regardant en avant. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus-Christ cherche à s'entourer d'hommes et de femmes qui soient résolus à le suivre et zélés pour l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul parle du bon soldat de Jésus-Christ et il dit de lui, 2 Timothée 2, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Mais voilà que parfois on pourrait se dire que tous les sacrifices qu'on a faits quand même, oui, ces renoncements qui nous ont coûté, les décisions prises qui ont conduit à pas mal de difficultés, ces choses qu'on avait faites en pleine connaissance de cause, par amour pour le Seigneur et pour lui plaire, que tout ça, en y réfléchissant bien, ne nous a pas apporté de bien grands bénéfices. Ou dit autrement, je ne suis pas plus heureux pour tout ça. Et alors, en nous laissant envahir par de telles pensées, on oublie les deux choses principales de la vie chrétienne. La première, c'est que Dieu est vivant et qu'il n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent, puisqu'il les aime d'un amour extraordinaire. C'est lui qui gouverne tout. Et la deuxième chose, c'est que dans la vie chrétienne, tout s'approprie par la foi. Et l'auteur de notre épître renchérit, au chapitre 11, verset 6, donc l'épître aux Hébreux, « En dehors de la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et la foi, la nôtre, doit sans cesse s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et comme je viens de le dire, se les approprier. Dans le passage sur lequel nous nous sommes arrêtés ce matin, il y a une de ces promesses qui nous encourage à ne pas nous relâcher, à ne pas retourner en arrière. Elle se trouve au verset 10. Non, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous avons fait pour lui. Et là-dedans, il faut inclure nos renoncements, les difficultés que nous avons dû traverser par suite de notre obéissance à sa parole, à ses commandements, la croix dont nous nous sommes chargés, dont nous nous sommes chargés. N'est-ce pas ? À ne pas confondre avec les épreuves qui sont le lot de tout un chacun dans un monde soumis au péché. Par exemple, si je reste handicapé suite à un accident de voiture, ce n'est pas le genre de croix dont parle le Seigneur Jésus quand il dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce handicap m'a été imposé suite à un accident. Et si c'est bien un genre de croix, mais ce n'est pas celle dont nous parle le Christ dans le verset que je viens de vous lire. Non, la croix à laquelle il fait référence, c'est la sienne, qui doit aussi devenir la nôtre. Tous les jours, a-t-il précisé, celui qui veut venir à ma suite, qu'il se charge tous les jours de sa croix. Cette croix-là, la même que celle de Golgotha, c'est celle où je meurs à moi-même, volontairement. Non seulement au péché, mais à ma propre volonté. Où je meurs à un mode de vie basé sur la distraction et les plaisirs. Parce que ça, c'est le mode d'existence du monde, pas celui de l'Église. Alors non, en effet, comme le dit l'auteur, Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier ce que nous abandonnons pour lui et ce que nous entreprenons pour lui dans une sainteté de vie et en nous appliquant à le servir, non pas selon notre imagination, mais selon les enseignements purs de sa parole et selon la droiture de nos cœurs. Dieu n'est pas injuste. Et ça me fait penser aussi à cet autre passage dans la première lettre à Timothée, quand Paul dit à son jeune frère « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Et on pourrait ajouter, pourvu que nous restions fidèles à la parole de Dieu. Quand on aime le Seigneur de tout son cœur, qu'il est le centre de nos vies, que sa parole est notre nourriture quotidienne, tout comme notre boussole, que la prière est comme une respiration, tout ça c'est la piété, et n'oublions pas la mise en pratique, qui est aussi une nourriture, comme le Seigneur Jésus le dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On trouve ça dans Jean 4, verset 34. Donc, quand on vit une telle perspective d'être à l'unisson de ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, eh bien, nous avons l'assurance que Dieu se souvient de nous et nous accorde sa bénédiction, qu'il fait reposer tout son amour sur nous. Écoutez encore cette parole de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Peut-on imaginer une plus belle et une plus glorieuse promesse que celle-là ? Quand Dieu vient habiter en nous. Cette espérance vivante que nous avons, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, rachetés par sa grâce, cette confiance dans les promesses qu'il nous a faites, eh bien c'est justement le thème des derniers versets de ce sixième chapitre. C'est ce que nous allons parcourir maintenant assez rapidement. Ne pas se relâcher, mais plutôt imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Imiter, ce n'est pas la première fois que le Nouveau Testament nous presse d'être des imitateurs. Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour à l'exemple du Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. En 2 Thessaloniciens 3, 9, Paul affirme qu'il a voulu se donner à ses frères comme un modèle à imiter. Dans Jean 13, 15, Jésus dit à ses disciples, après qu'il leur ait lavé les pieds, à chacun, qu'il leur a donné un exemple, afin qu'ils fassent comme il leur a fait. Et un peu plus loin, même chapitre, verset 34, aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est important, n'est-ce pas, d'avoir des modèles à imiter. D'ailleurs, je crois que nous passons une grande partie de notre temps, durant notre existence, à nous calquer sur nos modèles de prédilection. Et là, je ne parle bien entendu pas seulement de modèles en ce qui concerne la foi. Notre manière de nous habiller, notre coupe de cheveux, l'intérieur de notre maison, la voiture que nous conduisons, le sport que je pratique, ma manière de parler et peut-être même de réfléchir, presque tout, de près ou de loin, dans ce qui fait mon être, est influencé par des modèles, des personnes ou des choses que j'ai plus ou moins intentionnellement imitées. Et ici, l'auteur nous parle de modèles bien précis que tout chrétien devrait avoir. Il s'agit de ceux qui héritent des promesses de Dieu en faisant preuve d'une foi persévérante. Il consacrera un peu plus loin tout un chapitre, le 11e, qui fera l'énumération de beaucoup de célèbres et de moins célèbres témoins de la foi. Mais celui qui nous est proposé ici, c'est Abraham. Qui Abraham est-il pour vous ? Qui Abraham est-il pour nous les croyants ? Eh bien, c'est notre père dans la foi, Abraham. On se rappelle bien dans le livre de la Genèse comment Abraham s'est révélé en homme de foi, et vraiment de foi à toute épreuve. Comment sa foi se caractérisait-elle ? Eh bien, tout simplement, il recevait les paroles de Dieu comme étant vraies. Et puisqu'elles étaient vraies, alors il construisait toute sa vie autour et sur elles, en attendant leur plein accomplissement. Abraham n'a d'ailleurs pas vu l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu lui avait faites. Mais toute sa vie, il les a attendu. Il en a attendu la réalisation avec confiance et assurance. Par exemple, Abraham a patienté des dizaines d'années avant que se réalise la promesse de la naissance de l'héritier, cet héritier tant espéré, Isaac, par lequel, justement, la promesse d'un peuple nombreux puis d'une multitude de nations allait se réaliser bien plus tard. Abraham l'a obtenu. Le texte le dit, oui, mais sans le voir, en fait. Notre passage exprime principalement deux choses. D'abord, qu'effectivement, Abraham a persévéré dans la foi jusqu'au bout, comme on s'en rappelle, puisque sa confiance en Dieu n'a pas été ébranlée quand le Seigneur lui a demandé d'offrir Isaac, son fils unique, l'héritier, de l'offrir en sacrifice. Les épreuves et les mises à l'épreuve n'ont pas manqué tout au long de la vie d'Abraham. Et c'est ce qui lui a permis de mûrir dans sa foi et de parvenir à une obéissance envers Dieu, sinon parfaite, pour le moins exemplaire. Et n'est-ce pas un parcours semblable, un parcours de vie semblable auquel nous sommes nous aussi appelés ? Je ne dis pas identique, mais semblable, sur le même principe. Souvenons-nous de ce, qui nous a, de ce que nous avions lu au chapitre précédent, chapitre 5, verset 8, où il était dit à propos du Seigneur Jésus, il a appris, le Seigneur, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance. Comment ? Par les choses qu'il a souffertes. Ce qui nous ramène aussi tout au tout début de l'épître de Jacques, où nous lisons cette parole, Jacques 1, verset 2 à 4, « mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'épreuve qui nous exerce à la patience, patience qui nous permet de devenir des chrétiens accomplis, comme il en était parlé à la fin du cinquième chapitre d'Hébreux. Mais dans notre passage, il est fait mention d'une précision qu'on pourrait, au premier abord, qui pourrait au premier abord nous étonner. Que vient faire ici cette question de serment ? Pourquoi est-il dit que Dieu, quand il fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, eh bien il a juré par lui-même ? La réponse à cette question est donnée plus loin. Les promesses de Dieu sont tellement solennelles, tellement importantes et véridiques, elles se réaliseront à coup sûr, que Dieu, dans sa grâce, et pour que nous n'ayons aucune hésitation à nous confier en lui, Dieu a juré à Abraham que c'était bien comme ça que les choses allaient advenir. Il en a fait le serment. Bien sûr, comme il est Dieu, il lui est impossible de mentir, de faire des promesses à la légère. Mais c'est au contraire à cause de notre légèreté, à nous. Oui, à cause du péché qui nous habite. Nous sommes capables de dire une chose un jour et son contraire le lendemain. Alors que l'espérance qui nous est donnée en Jésus-Christ est oui et amen. Comme le dit ici encore l'apôtre Paul, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ, que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. C'est dans 2 Corinthiens 1, 18 à 20. Eh bien, moi aussi, je dis Amen pour aujourd'hui. Que nous puissions, les uns et les autres, être fortifiés et encouragés par ce que nous avons entendu ce matin. Ne nous laissons pas entraîner, comme je le disais tout à l'heure, par les prétentions de la chair, ni par les séductions du monde, et encore moins du monde religieux. Attention. Au contraire, affermissons-nous ensemble dans la foi en les promesses de Dieu. Et tenons ferme tout ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Amen. Amen.